Donc, Amen. Donc, ce matin, j'aimerais enseigner sur un sujet très fort, je pense, qu'il faut... Vous savez, la Bible, elle est complète. Il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, c'est bon pour notre instruction. Est-ce que c'est vrai? Il y a des sujets plus faciles à prêcher, il y a des sujets plus durs à prêcher, il y a des sujets, des fois, qu'on est plus fébrile à prêcher. Permettez, mais je suis plus fébrile. Mais on va regarder la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. J'aimerais parler de quelque chose qui est fort, qui est puissant, qui est réel, c'est l'esprit d'intimidation. Et je pense que nous vivons dans un monde qui veut nous intimider aussi. Mais également, l'intimidation, elle est partout. Même dans nos églises, elle est partout. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous cet esprit d'intimidation. Vous savez, fait deux mois et demi, je dirais, je disais, Manon, ça revient dans mon cœur. La fête des pères est arrivée, la fête des mères est arrivée, la fête est arrivée. J'ai toujours mis ça de côté. Et la semaine passée, ça l'a venu plus que clair dans ma tête. C'était le moment de vous enseigner ça. Donc, il y a des choses qui vont être dites. Peut-être que ça peut vous chatouiller vos oreilles. Mais j'aimerais ça qu'honnêtement, qu'à travers le message qui va être prononcé un matin, de vous placer devant le Seigneur avec certaines affaires. OK? C'est, moi, là, je ne suis pas capable de délivrer personne. Est-ce que c'est vrai?
Oui.
C'est l'Esprit qui fait la job. Moi, je suis un serviteur et le reste, moi, je proclame et Dieu fait le reste. Donc, ce matin, on va parler sur cet esprit d'intimidation. Si vous voulez, on va lire 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 14. On va lire deux textes en réalité aussi. Et on va lire 1 Timothée 4, verset 14. Il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » 2 Timothée 1, verset 6 et verset 7. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Seigneur, on vient devant toi ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que notre bataille, elle est spirituelle. Et ce matin, Père, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité, nous lions ce matin tout esprit qui veut venir contrecarrer tes plans. Seigneur, qu'est-ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Et Seigneur, nous demandons de lier ce matin ceux qui sont captifs dans leur esprit. Qu'est-ce qui est délié dans le ciel, tu viens délier sur la terre. Tu viens rendre libres ceux qui vivent sous cette oppression. Père, nous te prions afin qu'on voit ta gloire, qu'on voit ta parole agissante. Seigneur, on ne veut pas trembler dans l'adversité, mais on veut se tenir fort face à notre ennemi. Père, bénis la parole, bénis ton peuple, encourage-nous, fortifie-nous, relève-nous et fais-nous du bien ce matin. Dans le beau nom de Jésus, Amen et Amen. Un matin, c'est un matin de combat spirituel. Alléluia! Combien aime le combat? Alléluia! Des fois, on en dit « laisse-en aux autres », mais des fois, il faut en prendre, il faut combattre. Et un matin, c'est un message sur le combat spirituel. Nous voyons ici que l'apôtre Paul va se référer à la première lettre de Timothée qui va l'exhorter, qui va l'encourager à ne pas négliger le don qu'il a reçu par l'imposition des mains par la part des anciens. Et Paul insiste auprès de Timothée sur l'importance de ne pas négliger ce don. Pour une deuxième fois que nous avons lu dans le deuxième texte, Paul rappelle à Timothée de mettre son don en pratique, et c'est extrêmement sérieux. Ça fait deux fois qu'il l'avertit, pas une fois, mais c'est la deuxième fois qu'il l'avertit. Donc, Timothée ne doit pas prendre ça à la légère, qu'est-ce qu'il a reçu. Le don qu'on voit ici, c'est le mot « charisma ». Et le mot « charisma », le don, c'est une faveur que tu reçois de la part de Dieu, tu n'as aucun mérite. C'est un don, Dieu le donne, ça vient de lui, c'est le don, c'est une grâce que Dieu fait, c'est gratuit, c'est la grâce. Le charisma décrit les capacités surnaturelles et spirituelles du Saint-Esprit qui équipent les croyants de force, de puissance, d'amour et de sagesse pour faire avancer son œuvre. Alléluia, c'est bon? Donc, les dons nous rendent capables de servir l'Église. Sans le charisme, sans les dons, nous allons œuvrer en vain, car il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. Tout le monde dit « Amen ». J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que ça fonctionne. Et quand Dieu donne un don, un charisme, donc un don, un appel, un talent, peu importe ce que le Seigneur vous donne, ce don ne pas de vient et de va, il demeure en nous. Et Romains chapitre 11, verset 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons. » Et le mot « don », c'est « charisma », donc de son appel. Et Paul rappelle à Timothée, pour une deuxième fois, de ne pas négliger ce qu'elle a reçu. Quand nous parlons de négligence, ça signifie rejeter, de ne pas tenir compte, d'ignorer, sous-estimer ou oublier. Et Paul dit bien à Timothée, ne néglige pas le charisma, le don que tu as reçu. Ne le rejette pas, ne l'ignore pas, ne sous-estime pas, ne l'oublie pas, ne le rabaisse pas et ne maîtrise pas le don que tu as reçu. Alléluia! Donc, c'est assez sérieux comme qu'est-ce que Paul dit à Timothée. C'est une grâce que le Saint-Esprit fait. Donc, Paul dit, ça va être utile pour ton ministère. Et le contraire de négliger, c'est accomplir, réaliser, agir, assister et considérer. Donc, c'est des mots d'action, c'est des mots d'autorité. Paul dit à Timothée, Timothée, reconsidère, réenflamme ton don que tu as reçu. C'est primordial pour ton ministère. Peut-être que Timothée a reçu quelque chose, puis Timothée a mis ça en sommeil. J'aimerais dire que les dons ne marchent pas automatiquement. On a besoin, comme un feu, d'être allumé dans nos dons. Allô? Combien sont d'accord avec ça? Tu as besoin d'alimenter tes dons. Donc, ça va te rendre capable de servir l'Église. Mais nous savons, quand nous servons l'œuvre de Dieu, il peut y avoir aussi de l'opposition. Allô? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à l'opposition? Alléluia! Paul dit, Timothée, tu as reçu un esprit de timidité. Alléluia! Il ne dit pas ça, Foutet. Foutet, il y a un esprit de force et de puissance pour exercer ton ministère. J'aimerais m'arrêter également sur un autre mot, le mot « esprit » qu'on vient de lire. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et le mot « esprit », c'est le mot grec pour « pneuma ». Et le « pneuma », c'est le souffle de Dieu qui donne la vie. Dieu est esprit et Dieu est vie. Tout le monde est d'accord avec ça? Il nous a créé esprit, car Dieu lui-même est esprit. Un esprit n'a pas de sexe. Un esprit possède des pouvoirs, de connaissances, de désirs, de décisions et d'actions. Il y a des bons esprits qui ont été créés par Dieu. Le monde spirituel, les archanges, les gens, c'est tout ça. Donc, c'est des bonnes choses que Dieu a créées. Alléluia! Dieu veut l'adoration 24 sur 24. Il y a aussi les mauvais esprits, Satan et les mauvais anges qui ont chuté à cause de leur rébellion et qui sont actifs également pour détruire l'œuvre de Dieu. Combien sont d'accord avec ça également? Quand Dieu donne la vie de son esprit, c'est pour le service, c'est pour le servir. Nous sommes, en tant que peuple de Dieu, sans le savoir, quand vous êtes nés de nouveau, vous étiez déjà engagés dans une guerre spirituelle. L'ennemi ne vous aime pas. Attends-toi pas un cadeau à Noël. Attends-toi pas un chèque de sa part. Nous sommes dans un combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais comme le monde des ténèbres. Les démons existent et leur influence existe également. Et le rôle des démons, ces mauvais esprits viennent pour nous influencer. Ils viennent pour nous intimider. Ils viennent pour nous contrôler, pour nous manipuler et nous tenir captifs, soit par la peur, soit par la crainte. C'est un esprit. Donc, et cela, ça ne peut pas être combattu juste avec la chair, juste avec ces choses-là, ni au niveau de notre intellectuel. Pour confronter les mauvais esprits, ça doit être prodigué dans votre esprit, dans le domaine de l'esprit, où l'esprit désire dévoiler vraiment l'esprit d'intimidation. Et le Saint-Esprit désire apporter son aide pour affronter l'intimidation, pour confronter les mauvaises influences. Donc, comment faire? Une des grandes forces que l'Église a perdue, et c'est le temps qu'on revienne, c'est à travers les jeûnes et la prière. Allô? Combien de temps vous n'avez pas jeûné? Posez-vous la question. Combien de temps de ne pas pleurer et jeûner devant le Seigneur? La force de l'Église commence par les jeûnes et la prière. L'Église combattante, c'est une Église qui se prend en main dans le combat spirituel. Donc, demandons l'aide du Saint-Esprit pour dévoiler les ruses du diable, pour comprendre, pour confronter ceux qui veulent nous intimider. Le mot grec pour timidité, un autre mot, c'est « delia », qui veut dire « timidité » ou « lâcheté ». Il me semble que Timothée était dans un état d'intimité. Il manquait de courage pour affronter l'esprit d'intimidation. Et je ne veux pas trop rentrer dans ça, je veux juste donner un gros mot. Vous savez, quand vous lisez Timothée, 1er Timothée ou 2e Timothée, Timothée est dans un contexte de l'Église d'Éphèse. Il est le pasteur de l'Église d'Éphèse. Et nous savons qu'à Éphèse, il y avait le culte de la grande Diane. Et la grande Diane, la déesse Diane, leur adepte, croyait que la femme a été créée en premier. C'est leur doctrine. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans tout cela. Et sûrement que Timothée, les nouveaux qui arrivaient, les nouveaux sauvés en travers le réveil, emportaient leur doctrine. Et sûrement que Timothée était confronté ou intimidé par ces choses-là. Relisons 2 Timothée 1, 7. Et j'ai pris la version, la Bible en français courant. Timothée 1, 7 nous dit, « Car l'Esprit de Dieu nous a donné, ne nous rend pas timides. » Nous rend pas timides. À la lumière de cela, Paul est en train de dire à Timothée, « Ton don est en sommeil à cause de la timidité. » Cela, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Son Esprit nous rend capable de surmonter ces épreuves-là. Et Romains 12, 11 nous dit, « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » L'inverse. Paul dit, « Sois zélé, sois bouillant, sois pas paresseux pour l'œuvre de Dieu. Sois fervent d'esprit, sois enthousiasmé à servir le Seigneur. Sois un guerrier de l'Éternel. » Le Saint-Esprit ne nous fait pas vivre dans la peur, dans la crainte face à l'opposition satanique, mais nous invite à vivre l'autorité de la puissance du ciel sur le monde des ténèbres. Sans en changer à rien dans notre texte, Timothée, son don est en sommeil pour cause d'intimidation. Paul dit à Timothée, « Vis pas avec l'intimidation. » Ne vis pas dans la crainte, ne vis pas dans la peur, ne vis pas sur les gens qui veulent te contrôler. Mais prends l'autorité sur ces choses-là. Satan et ses démons sont sous nos pieds. Est-ce que c'est vrai? La puissance de la croix a anéanti notre ennemi. C'est à nous de prendre position. Timothée doit faire face à la musique et les dons du Saint-Esprit sont là pour nous aider à discerner les choses. Comme Jésus, que flux qui reprenne Pierre, vous connaissez l'histoire, et que Jésus dit, faut que j'aille à Jérusalem, faut que j'aille mourir, ça ne fait pas l'affaire à Pierre. Matthieu 16, versets 21 et 23. Donc, Jésus dit, fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre n'est pas d'accord avec Jésus. Et là, le verset 23, il est fort en tabarnouche. Il dit, « Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » Hein? Moi, je dirais ça à quelqu'un, je mangerais à quelque part toute une volée. Mais Jésus a discerné quelque chose ici. Jésus a découvert, a discerné une manœuvre qui ne vient pas de Pierre. Mais que Pierre a été influencé par son ennemi. Et la semaine prochaine, dimanche soir prochain, je vais parler du don du discernement des esprits. Je parlerai de ce don, comment il est actif. J'aimerais regarder avec vous les causes de l'esprit de l'intimidation. Il y a des causes à ça. Comme Timothée, en premier lieu, les croyants intimidés vont perdre leur autorité dans l'esprit par défaut, car vous vous soumettez à leur action. En conséquence, vos dons, vos talents, votre appel vont demeurer inactifs pas en action. Beaucoup de gens vivent avec ces choses-là. Bien que présent, le don que vous avez ne se manifeste pas. Vos dons, vos appels ne se manifesteront pas. L'intimité fait que nous cédons à l'autorité qui nous a été donnée. Je vais aller plus loin. L'intimidation, elle est partout. Même dans le milieu chrétien, je vais vous en parler tantôt de quelques exemples que moi et Manon, nous avons vécu face à ces choses-là. Et laisse-moi dire que, je le répète, le mot « timidité » vient du mot « délia », qui veut dire « crainte, timidité, frayeur, lâcheté ». Le dictionnaire Larousse nous dit « définit le mot « intimité » par « inspirer la crainte, fait perdre assurance par soit le contrôle, soit par des menaces, soit par de la pression ou soit par de la manipulation. » Est-ce qu'on me suit jusqu'à date? Est-ce que ça va? Alléluia. Tout cela fait que tout ce que vous avez de la part de Dieu, vos dons, vos talents, ça ne se manifeste pas. On devient paralysé par la peur, par le contrôle, et on se soumet à ça. Et cet esprit d'intimidation est de vous empêcher, je dirais, d'agir et de vous contrôler, je le répète, dans la peur, dans la crainte et le contrôle de votre vie. Et vous devenez des chrétiens malheureux, vous devenez des chrétiens captifs dans votre esprit, vous devenez esclaves et prisonniers de cet esprit. Je vais aller plus loin. Vous vivrez dans la crainte et dans la peur. L'intimidation cherche à vous écraser avec des sentiments d'infériorité et de crainte. Regardez le monde quand ils vivent avec l'intimidation. Regardez qu'est-ce qui se passe. Les gens ont peur. Les gens se barricadent. L'intimidation aux écoles. Les gens ont peur. Est-ce que c'est ça, un peu, l'intimidation? Allô? Donc, l'intimidation cherche à vous écraser. Je vais aller encore. Et à partir de ce moment-là, inconsciemment ou consciemment, vous devenez un serviteur d'intimidation, car vous ne serez pas libre d'accomplir ce que le Seigneur vous demande d'accomplir. Mais vous serez condamné à exécuter les désirs de celui qui vous intimide, soit de faire sa volonté à lui et non votre volonté. Allô? Amen. Voyez, quand on parle de ces sujets-là, c'est des gros sujets. Donc, vous vivrez avec l'oppression. Ce que je dis, le don de Dieu qui est en vous devient inopérant. Vous vivez dans cet esprit de contrôle, vous êtes dépouillé de votre autorité. Donc, et cette autorité qui vous contrôle, elle va s'utiliser contre vous. Cela veut dire que vous devenez, premièrement, esclave dans vos pensées. Ça produit le stress, ça produit la peur, ça produit la crainte. Et vous paralysez. Vous êtes plus capable d'avancer. C'est ça que ça fait, l'intimidation. Et vous vivrez de l'oppression, c'est malsain. Vous serez malheureux et triste. Tu deviens l'esclave, vous êtes lié dans votre esprit. Ce que je dis en cours de route, combien de fois que j'ai vu en travers les années à faire des appels ou que des gens étaient pris sous cette oppression. Croyez-moi que ça existe. Croyez-le que le diable, il veut vous mettre sur son joug. Croyez-le que des gens qui sont captifs dans leur esprit qui ont besoin de délivrance. Et ça se fait dans le milieu chrétien. Croyez-le! Je vous le dis, je l'ai vu plusieurs fois en cours de route. Une jeune fille de 15 ans, je vous l'ai déjà témoigné, qu'elle haïssait ses parents au point de vouloir rien savoir, de s'évader. Et j'ai posé une question. Pourquoi tu n'aimes pas? Elle m'a donné la question. J'ai eu une parole, un don. Et cette fille, elle est partie, elle est éclatée. Et par après, je l'ai laissée là. J'ai dit, dégage que tu as dégagé. J'ai revenu par après, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Elle a dit, j'ai senti comme quelque chose se briser dans ma vie. Elle était liée par un mauvais esprit. Croyez-le que le monde des ténèbres agit dans le milieu chrétien. Croyez-le parce que Dieu veut agir encore aujourd'hui. Alléluia! Jésus brise encore aujourd'hui les chaînes de la captivité. Et l'origine de cette intimidation, donc, vient du diable, on le sait. Et votre adversaire, c'est lui qui est à l'origine de cela. Comme Pierre qui était influencé, Pierre, sa pensée ne venait pas de Dieu, il a été manipulé dans ses pensées. Quand l'ennemi, je dirais, s'attaque à vous, c'est en travers vos pensées. La première place qui va vous attaquer, c'est vos pensées. Il va utiliser, je dis bien là, il va utiliser des circonstances pour qu'il y ait des gens qui vont venir vers vous pour vous influencer dans votre façon de faire. Écoutez bien, et cela, ça pénètre votre esprit. C'est pourquoi que Paul nous enseigne d'emmener toute pensée où? Captive. Toute pensée, pas une pensée, toute pensée captive, pour renverser quoi? Les forteresses de celui qui te tient lié. T'emportes tout cela. Et pour cela, le casque du salut, protégez vos pensées, mettez devant vous le bouclier de la foi pour arrêter les flèches enflammées du diable. J'aimerais dire, avant d'aller plus loin, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque enfant de Dieu a une position d'autorité. Alléluia! Par ma nouvelle naissance spirituelle, Jésus-Christ est celui qui est au-dessus de toute autorité. Combien le croient? Jésus est le nom. Regardez bien, Éphésiens 1, versets 22 et 23, jusqu'au verset 23. Jésus-Christ est le nom au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Ça, c'est l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. J'aimerais regarder avec vous un récit très fort. J'avais préparé deux messages, mais je vais en faire un qu'un. Comment cet esprit-là se manifeste. Et si j'en parle, je vous ai donné, j'ai ouvert une grosse parenthèse, mais on va regarder maintenant comment ça fonctionne. Vous savez, j'aimerais lire ou regarder avec vous une histoire ce matin. Le prophète Élie, l'homme de Dieu, un prophète puissant, un prophète loin de Dieu, un prophète qui marche en onction, signe, miracle et prodige. Et Dieu va envoyer ce prophète vers le roi Achab, le roi d'Israël, un roi méchant, un roi qui vit sans crainte de Dieu, qui a épousé Jézabel, qui veut dire impudique. Et cette femme a pris le contrôle d'Israël sous son influence. Elle a commencé à donner des cultes à Baal, à Astéré, qui éloigne le peuple de Dieu à la désobéissance du Seigneur. Et Élie, l'homme de Dieu, va lui dire, 1er roi, chapitre 17, verset 1, « Élie, le Tishite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. » Tout cela à cause de l'influence de Jézabel qui a influencé, manipulé Israël à l'idolâtrie pour délaisser le Seigneur. Et Dieu va sévir à cette désobéissance. Après cela, le roi, pas le roi, mais Élie va vivre des années de miracles, de miraculeux. Souvenez-vous qu'il était nourri au torrent de Goret par des corbeaux. Puis si tu étudies le corbeau, c'est celui qui partage le moins avec les autres. Mais tous les jours, il y avait une manne fraîche qui arrivait vers Élie. Les corbeaux lui emportaient la bouffe. C'est extraordinaire. Et après ça, le miracle de Séramta, une veuve dans les temps de sécheresse, ou qu'il n'y avait plus rien. Cette femme n'a jamais manqué de farine ni d'huile, et ça n'a jamais diminué. Vous connaissez l'histoire. Encore un miracle. Encore plus que ça, le jeune homme va mourir, et encore, Élie, le prophète, va ressusciter cet homme. Des miracles sur miracles. Donc, maintenant, le roi va rencontrer Élie. Élie va revenir vers le roi Achab, et Élie, ce roi, va rencontrer le roi, et le roi va tenir responsable le prophète Élie. Lisons ensemble. 1er roi, chapitre 18, verset 17 et 18. 1er roi, 18, verset 17 et 18. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. » Achab accuse Élie de jeter le trouble sur Israël. Jeter le trouble ici, Si vous faites la tradition grecque, vous allez dans d'autres traductions ou dans le mot, ça veut dire c'est la même famille qui est traduite par vipère, aspic ou serpent. Akab veut intimider Élie. Il l'accuse. Si on fait la tradition, dit « Est-ce toi, Élie, la vipère d'Israël, qui crache sur ton peuple ton venin pour nous faire mourir? » Grosse accusation. Donc, j'aime le prophète Élie, c'est un homme d'audace. Élie, on fait quelque chose. Akab n'aime pas le prophète Élie. Il n'a pas des bons sentiments envers le prophète. Mais Akab a toutes les raisons pour ne pas aimer Élie. Donc, j'aimerais dire que ça a pris du courage au prophète Élie pour confronter cet homme. La bonne nouvelle, c'est qu'Élie a été entraîné au Coret. Il n'a pas intimidé. Il était habitué au combat spirituel. Élie a eu le courage de porter le blâme non sur lui, mais sur ce faux, je l'appelle ce faux roi. Élie va lui dire, « Tu me blâmes pour ce qu'il arrive. Si Dieu a permis la sécheresse, écoutez bien, c'est à cause des gens comme toi qu'il n'a pas de pluie. L'Éternel a fermé les cieux, t'a transgressé ses commandements, tu as abandonné Dieu pour adorer les idoles. Le roi Akab, selon Exode 20, verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Le premier commandement. Écoutez bien, Élie n'a pas cédé à l'intimidation. Après cela, Élie va dire, « Rassemble tes prophètes, qu'on monte à la montagne de Carmel, viens avec tes 450 prophètes de Baal, tes 450 prophètes d'Astéré, ceux qui sont à la table de Jézabel, ta femme, et si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, et si c'est Baal, allez auprès de lui. » Écoutez bien, c'est une préparation, une grande rencontre. De savoir qui est le vrai Dieu. Le jour de la confrontation, Israël au complet a monté avec les faux prophètes et Élie a mis les faux prophètes vraiment devant un défi. Et en même temps qu'il offrirait son sacrifice, il dit, premier roi, 18-20, je vous donne l'histoire, premier roi, 18-24, puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Vous connaissez le récit. Vous savez que les 850 faux prophètes ont été éliminés, que le feu est descendu. Élie a fait mourir les faux prophètes. La pluie est venue. Et entre-temps, Akab s'est sauvé et la sécheresse va prendre fin. Écoutez bien, ce récit a qui me passionne. C'est un récit extraordinaire. Le même jour que cela est arrivé, vous connaissez encore ces textes, la femme d'Akab, Jézabel, a été vraiment troublée. Elle a appris qu'est-ce que le prophète Élie a fait à ses prophètes, à ses faux prophètes. Jézabel vient d'en prendre pour son rhume. Et dans sa fureur, elle va envoyer un message au prophète Élie, car Élie est en train de faire perdre le contrôle de la femme Jézabel qui tient captif Israël. Écoutez bien. Premier roi, chapitre 19, verset 2 et 4. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent en toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, le couteau, il s'engorge. C'est ce qu'on est en train de dire. Et dans cette lettre, le grand vainqueur, l'homme de Dieu qui a combattu l'enfer a été ébranlé, a été intimidé par Jézabel. Verset 3 et 4, 1 roi 19, verset 3 et 4. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le même jour de la grande victoire, cet homme maintenant se sauve pour garder sa vie. Cet homme est tellement intimidé, découragé par Jézabel qu'il a voulu mourir. Jézabel contrôle maintenant ses pensées. Allô? Comprenez-vous? Le but, à travers cette lettre, le but de Jézabel, dans son indignation, écoutez, on va aller plus loin, c'est d'empêcher le prophète Élie d'achever le dessein de Dieu, le plan de Dieu, soit d'éliminer les cultes d'idolâtres. Elle a voulu mettre un joug sur le peuple d'Israël. Elle voulait que le prophète meure. Elle vient de voir ses faux prophètes mourir. Et le Seigneur est en train de changer l'atmosphère spirituelle d'Israël. Jézabel est en train de perdre le contrôle d'Israël. Elle ne démontre pas son bonne humeur. Elle démontre qu'elle ne veut pas perdre le contrôle. C'est pourquoi qu'elle écrit une lettre au prophète et elle est déchaînée comme l'homme de Dieu. Voyez-vous comment l'intimidation peut venir jouer dans votre tête? Comprenez-vous, la ruse du diable, c'est de venir pour nous faire perdre le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à faire? Par l'intimidation. Même si elle n'a pas réussi à le tuer, mais elle a terrifié tellement le prophète Élie qu'il y a fui devant la menace. Jézabel a réussi son plan à le faire fuir de son intimidation. Un esprit d'intimidation déclenche la confusion, la peur et la crainte. Wow. On est en train de dire ici que le diable est un manipulateur. Le découragement s'installe, la frustration s'installe. Son but, c'est de vous faire perdre toute perspective juste du plan de Dieu dans votre vie. Cet esprit va tout faire pour vous arrêter dans le plan de Dieu, au point que tout va s'arrêter. Je vais aller encore plus loin. Ça va vous paraître insurmontable, difficile, impossible, voire impossible à surmonter vos craintes et vos peurs. Quand vraiment que cet esprit est là, on n'est pas bien dans notre peau. On est mal à l'aise avec ces choses-là. Je le répète, c'est l'intimidation, c'est l'oppression qui est sur votre vie. Écoutez bien, et par surcroît, vous vivrez dans le contrôle de la crainte de l'homme qui est sous l'influence d'un mauvais esprit. Écoutez bien, plus l'intimidation sera trop forte, plus le découragement et les sentiments d'impuissance deviennent grands. Vous êtes à sa merci. Votre esprit est contrôlé par ses pensées, c'est négatif. Et c'est pour ça que le prophète Élie s'est sauvé, il a peur. Comprenez? Et cela, ça vous paralyse dans votre fort intérieur. Il y a un homme fort que prit, vous n'êtes pas possédé, c'est pour ça que je dis, mais que prit vos pensées, qui contrôle vos pensées. Vous vous voyez noir, vous êtes négatif, vous n'êtes pas heureux, ça se ressent dans votre démarche. Vous êtes lié, vous êtes emprisonné par la peur, par la... Vous vivez sur le son, vous vivez sur de la tension, vos pensées sont captives et vous êtes prisonnier avec ça. Cela, ça doit être brisé. Si vous vous retrouvez avec ces choses-là, peu importe ce que vous avez vécu, votre esprit a besoin d'être libéré. Allô? Je le dis et je le redis, je l'ai vu plus souvent qu'à mon tour, ces choses-là. Et un chrétien qui veut s'épanouir, qui veut grandir, ne peut pas vivre dans un esprit comme ça. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous délivre du filet de l'oiseau-leur. Pour le prophète Élie, il n'est plus capable d'avancer dans la direction de Dieu. C'est le but de l'intimidation. Lisons 1 Roi 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt en demandant la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme que je ne suis pas meilleur de mes pères. » Le plan de l'ennemi est toujours pareil, c'est de vous faire reculer dans la direction que Dieu a pour vous. On voit Élie tellement affecté, il dit, « Seigneur, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai tout donné. » Cet homme voit noir, cet homme se dévalorise et les conséquences que Élie, écoutez bien, ça va être sérieux quand on va être évincé de son autorité. On va le voir dans quelques secondes. Parce qu'il n'a pas confronté l'intimidation de Jézabel. Le résultat, l'homme don, le don qu'il a reçu pour les nations va être remplacé par un autre prophète. On va le voir là. Élie a pris une autre direction qui n'était pas celle que le Seigneur voulait qu'il prenne, soit de fuir Jézabel, son intimidation. Élie est devenu un homme différent par après. Son esprit est affecté, ses émotions sont affectées, ils sont avides, tout est débalancé. Quand vous voyez quelqu'un qui vit sur un joug comme ça, la personne, elle n'est plus pareille. Il y a quoi à l'intérieur qui est brisé? Il est parti dans une direction différente, laissant devant lui son serviteur 40 jours, 40 nuits, qui a couru pour aller à Hébron, au mont Hébron. La première chose que Dieu va lui dire, arrive à Hébron, écoutez bien, 1 Roi 19:9. Et là, il entra dans la caverne, il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel qui lui fut adressant ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Quoi, il taboute, là? Il est fatigué, là. Il n'en peut plus, tu sais, là. Puis Dieu dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Pas ta place. » Je ne sais pas, moi, être dans la peau d'Élie, j'aurais peut-être pété un plomb, là, mais ce gars est fatigué. Il a besoin de réconfort. Vous savez, Élie est découragé, épuisé, fatigué, couru, combat. Et Dieu lui dit, au fond du cœur, qu'est-ce que Dieu lui dit? « Pourquoi, prophète Élie, t'es-tu enfui du poste que tu es venu, que je t'ai donné? Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi tu t'es enfui de tes responsabilités? » Allô? Vous savez, dans cette grande pression, Élie n'était plus capable. Pourtant, l'œuvre de Dieu, que Dieu avait commencé avec le prophète Élie, ne pouvait pas continuer tant que Jézabel n'avait pas été confrontée. Elle était la source du problème d'Israël. Et 1 Roi 19, 15 et 17, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Haziel, pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Dalmon-Mohan, pour prophète à ta place. » C'est sérieux, là. Comprenez? Donc, il arriva que celui qui échappa à l'épée de Haziel, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Remarquez bien, Dieu dit à Élie, continue ton chemin. Il va y avoir du changement. Et en cours de route, tu vas voir le roi Haziel, roi de Syrie. Tu vas voir également Jéhu, roi d'Israël, qui va te remplacer par le roi Akab. Également, tu vas voir le prophète Élisée qui va prendre ta place. Une nouvelle garde va prendre place et qui ne laissera pas intimider par Jézabel. Tout cela parce que Élie a perdu son autorité. Allô? Et qu'il n'était plus capable non plus de faire l'œuvre que Dieu lui a demandé. Écoutez bien, l'œuvre qu'Élie, qui avait commencé, était mise en attente. Et en fuyant Jézabel, il ne faut pas perdre de but que Jézabel était seule influence du monde démoniaque, qu'elle s'était infiltrée en Israël. Et je le dis, comme Élie, quand l'intimidation se fait sentir, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit du contrôle. Qui s'attaque, écoutez bien ici, là. Qui s'est attaqué directement à qui? À qui s'est attaqué? Au prophète Élie. Il s'est attaqué où? À la tête, au prophète Élie, au ministère prophétique d'Élie. Je vais aller plus loin, ce même esprit s'attaque encore aujourd'hui dans les têtes dirigeantes. Il s'attaque à vos dons, s'attaque à vos appels, pour vous paralyser dans vos dons et dans vos appels. Jézabel voulait garder le contrôle. Elle veut empêcher le prophète Élie de délivrer le peuple de Dieu. C'est souvent comme ça, ça commence. L'ennemi attaque les têtes dirigeantes pour empêcher de poursuivre l'œuvre de Dieu. Tout ministère, peu importe le ministère, soit pasteur, soit évangéliste, soit vos ministères, peu importe vos ministères, vos dons, vos talents que vous recevez de la part du Saint-Esprit, le diable va toujours venir vous attaquer. Et si vous ne connaissez pas le combat spirituel, bien, il y a un problème. Parce que tout chrétien engagé connaît les combats. Alléluia! Moi, je vais vous en parler dans quelques minutes. Le diable vient toujours nous attaquer. Cet esprit veut garder le contrôle. Jézabel fait qu'elle met un épée sur la tête de Élie. Et personne ne peut marcher dans son développement spirituel si vous avez un épée sur votre tête. Oh, vous avez manqué un gros amen ici. Tu ne peux pas marcher avec une épée sur ta tête. C'est impossible. Tu peux pas. C'est impossible. Soit l'intimidation, c'est la crainte, c'est la peur. Et cela va mettre un frein à vos dons, à vos appels, parce que c'est pas vous qui êtes dirigé, mais c'est celui qui vous influence. Le charisme est en pause à cause de cette influence. Et cela fait que tu n'avanceras pas. Tout est sous le contrôle de l'adversaire. Tu te sens menacé, donc tu es épuisé spirituellement, et cela, ça vient pas du Saint-Esprit. Écoutez bien. Ni de l'amour de Dieu. Cela, ça vient directement du monde de l'enfer. Grande vérité. Toute personne ou tout esprit qui veut contrôler, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne marche pas de cette façon. Dieu marche dans l'unité. Dieu marche ensemble. Dieu prend des personnes pour s'unir et marcher ensemble. On s'en va dans la même direction ensemble. Alléluia. Il n'y a pas 1000 bergers, il y a un berger. Alléluia. Oh, j'aimerais aller plus loin, mais je vais être plus sage ce matin. Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres de nos chaînes de captivité et de vivre une vie épanouie. Dis avec moi, je veux vivre une vie chrétienne épanouie. Je veux être libre dans mes dons. Je veux être libre dans mon appel. Je dois marcher comme Dieu m'appelle à marcher. Je ne suis pas le clone de un et de l'autre. Je suis le clone de moi, comme Dieu m'a créé. Moi, avec mes dons, avec mon appel, avec ce que j'ai. Et c'est la même chose pour toi. Allô? Boys, come on! On doit y aller dans cette direction. Vive une vie active dans vos dons et dans vos appels. Chaque chrétien, chaque chrétienne, vous êtes appelé à vous développer dans vos dons. Vous êtes appelé à être encouragé dans vos dons et dans vos appels et non être manipulé et contrôlé. Dites-moi un gros amen un matin. Alléluia! Tu es appelé à être libre. Jésus-Christ est venu briser les chaînes de la captivité. Il est venu te rendre libre de toute oppression. L'ennemi est vaincu par le sang. La croix t'a libéré. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Enfant de Dieu, né de nouveau. Oh Lord. Dieu désire que vous avanciez. Dites-moi un grand amen. Paul le dit à Timothée. Paul, vis pas dans cette... Timothée, vis pas dans cette intimidation. Également, dernier point, l'intimidation apporte dans vos vies de la pression insurmontable. Quand l'ennemi vient attaquer dans vos directions ou que vous voulez prendre une direction pour l'avancement du royaume de Dieu, tout ministère, toute personne active ou tout chrétien qui veut avancer, l'ennemi, c'est de mettre les bâtons dans les roues. Et en mettant des bâtons dans les roues, il vous met des jougs aussi. Écoutez bien, je vais vous donner quelques illustrations de qu'on veut vivre comme berger, comme pasteur ou comme ministre. On était dans une église, on faisait de l'évangélisation, on faisait nos cultes comme qu'on fait ici, mais on les faisait à l'extérieur. On faisait de la TV communautaire, on faisait de l'évangélisation de rue. Et on a eu des menaces de mort, hein, Manon? Il y a des gens qui nous appelaient, disent, si tu ne sors pas de la ville, toi, là, c'est ta, ça va t'arriver de telle affaire. L'intimidation. Vous allez vivre des choses sérieuses. Également, dans une église où il y avait deux musiciens, je l'ai dit avec modestie ce matin, deux personnes, deux bons musiciens. Je n'ai rien contre les musiciens parce que j'étais musicien moi-même. J'aime la musique, j'aime l'adoration, j'aime ça. Il y a deux musiciens qui étaient là. Puis, il y avait des musiciens en place qui voulaient s'infiltrer avec le groupe. Et à toutes les fois qu'on allait vers les musiciens, ces deux musiciens-là, pour greffer d'autres ministères avec eux, d'autres musiciens avec eux, ils n'ont jamais voulu. Voici les menaces. C'était leur ministère et personne d'autre, eux, qui vont jouer ensemble. On va aller plus loin. Si on fait de la musique, on reste à deux. On ne veut pas personne avec nous. Sinon, on quitte l'Église. Si tu veux des musiciens, trouve-toi d'autres musiciens. n'est-ce pas, Manon? Si ça ne fonctionne pas comme que je veux, je démissionne. De la menace, de l'intimidation. Des gens qui donnaient des prophéties dans l'Église, qui connaissaient la vie des gens. Donc, ils veulent te dire quoi dire pour te servir de vous à leur place. De la manipulation. Ou d'autres viennent te dire avec des menaces sérieuses, si tu prends une telle direction, nous, on s'en va de l'Église. Allô? Je vous en compte juste un petit huitième, là. Une dernière. J'étais en Europe. On a eu un super temps. On a vu des baptêmes du Saint-Esprit. On a vu des choses extraordinaires. Et le pasteur vient voir et dit, j'aime pas ton ministère. Il dit, jamais tu vas revenir ici. Il dit, pourquoi tu n'as pas aimé? Il dit, j'aime pas, tu prêches trop à l'américaine. Et tu peux pas me changer, moi, là, je suis comme ça. Et ce gars-là, il a voulu m'intimider, et je l'ai su par après. Il a voulu me fermer les portes partout où j'allais après. Il dit, prenez pas ce pasteur-là, cet évangéliste-là, il fait rien de bon. Il a voulu m'intimider. Mais j'étais heureux parce que les frères, ils disaient, t'es un menteur, c'est pas vrai. Nous, il nous a fait du bien. Voyez-vous, l'intimidation qui veut t'écraser pour ne pas faire ce que Dieu te demande. Une église également qu'on nous a menacés, c'est elle qui pourvoyait à mon salaire. On voyait des baptêmes du Saint-Esprit, elle était anti-baptême du Saint-Esprit. Elle dit, si tu prêches sur ça, on s'en va. Mais je dis, madame, moi je prêche, que je dois prêcher, et vous voyez les résultats. Cette dame est partie, on s'est dit, my, on va faire comment pour vivre, on va retourner travailler. Et la dame est partie, et dans les 2 années par après, on était 12 personnes, et l'Église en a monté jusqu'à 85 personnes. Dieu a épuré, je pourrais dire. On ne s'est pas laissé intimider. Et vous n'êtes pas appelé à vous laisser intimider. Dis amen. Je ne suis pas appelé à me laisser intimider. Et c'est sérieux, ces sujets. Gardez-vous droit. Le Saint-Esprit mettra à jour les vrais problèmes. Peu importe le temps, Dieu fera sa justice. Alléluia. Vous, votre rôle, c'est de prier. Vous, votre rôle, c'est de jeûner. Vous, votre rôle, c'est de rechercher la face de Dieu, de pleurer devant le Seigneur. Alléluia. De dire, Seigneur, viens faire ta justice. Moi, c'est pas moi qui change les cœurs, mais c'est toi qui brises les chaînes de mon ennemi. Et quand vous commencez à la prendre la position, quand les gens viendront vers vous, soyez comment capables de répondre. Alléluia! Il y a des façons. Jézabel a voulu vivre par l'intimidation face à cet homme. Le Saint-Esprit est notre force, est notre aide. Il est notre consolateur. Priez, jeûnez, discernez qu'est-ce qui est en arrière de ces choses-là. Alléluia! Ce que je dis, le rôle de Jézabel, c'est la domination. L'esprit de Jézabel, c'est un caractère d'autorité qui fait oublier qui a l'autorité pour s'emparer de votre autorité, pour s'emparer de votre contrôle. Le tout se fait sur cela. Et on l'a vécu plus qu'une fois. Hein, Manon? Plus qu'une fois. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec... Pas parce que je suis mieux de vous, là, hein, parce que j'ai juste un petit peu plus vieilli à certains niveaux, là. On vieillit dans l'âge, on vieillit dans les ministères. Et je vais aller plus loin, puis je vais terminer très bientôt, la tendance. Je dirais, c'est un des gros problèmes des églises. Je parle pas juste d'ici, je parle dans tout ce que j'ai vu. Les divisions, les chicanes, les cassures. Tout cela... Le diable est heureux quand ça arrive. Savez-vous pourquoi? Parce que ça empêche l'œuvre de Dieu de continuer où qu'elle devrait être. L'Église n'avance pas dans sa destinée avec cet esprit d'intimidation. Allô? Ça empêche l'avancement du royaume de Dieu. Et le diable, il est content, les démons sont contents. Et si ces choses-là ne s'arrêtent pas, vous aurez toujours les mains liées, peu importe qui nous sommes. Vous êtes, vous savez, il y a beaucoup d'ébrouillés qu'on a connus, bon, comme vous, que vous connaissez également, qui avaient des super de belles œuvres, mais par l'intimidation, par l'intérieur, par le stress, par le contrôle, ont abandonné le ministère et ça a arrêté là. Leur vie a été complètement brisée et ces gens-là sont même plus aujourd'hui dans le ministère des hommes de Dieu avec des beaux potentiels. Cela fait que l'œuvre de Dieu se met en arrêt, comme le prophète Élie, qu'il s'est senti épeuré, qu'il a eu peur, qu'il s'est enfui et qu'il a perdu le contrôle du ministère. Je crois également que l'Église est un lieu merveilleux. Dites avec moi. C'est un lieu merveilleux. C'est le plus beau lieu, mais c'est la pire place pour se faire. Mais c'est le plus beau. Aime ton frère, écrase-y pas l'orteil, aime-le. Jésus est venu nous libérer de l'esprit de l'esclavage, de l'esprit de la captivité. Et Élie, à cause de l'intimidation, a fui ses responsabilités. Ce qui est triste, c'est que Élie a laissé sa place à cause de l'intimidation. Il n'a plus la force de continuer son ministère. Il dit, demande au prophète Élisée de prendre ta place. Oint ces personnes-là. Et si vous faites l'histoire, c'est Jézabel a été tuée par le roi Jéhu. Et c'est Jéhu qui a tué Jézabel. Écoutez bien, on va aller plus loin sur l'ordre de Jéhu. Et 1er roi 19, 17, un des derniers versets, « Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Haziel, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Nous voyons ici le plan de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de place pour cela. Il n'y a pas de place à ces choses-là. Quand Dieu a dit « Élie », oint le prophète Élisée à ta place, c'est que Élie a perdu son autorité. Mais la bonne nouvelle, 2 roi 18, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Je vous le dis honnêtement, nous on a été confrontés, comme bien des ministères, mais on a toujours voulu prendre position face à cela. Si vous confrontez les mauvaises influences, le don qui est en vous, vos dons, vos talents, vos appels, si vous êtes courageux, ça, vous allez être libéré de ces choses-là. Le Saint-Esprit sera ta force, ton appui pour que tu retrouves ta liberté. Tu iras dans la victoire, vers la délivrance, pour que tu sois libéré. Et c'est pour ça que nous parlons souvent, quand nous parlons de pardon dans l'Église, pardonnez-vous. Souvent, il y a des choses qui sont là, en place, qui n'ont pas été réglées. Allô? Le pardon fait partie de la famille. Croyez-le. Donc, quand quelqu'un y arrive des occasions, apprenons à ça. Et pardonner, ça veut dire d'écraser sur ton orgueil. Sois plus fort que l'autre. Si toi, tu es faible, alléluia, sois plus fort. Les chaînes de l'enfer doivent tomber. Et dans le contexte que nous lisons ce matin, la nation a été délivrée de Jézabel et d'Icule, de Baal et d'Astéré. Ce que je dis, et je termine, l'ennemi a perdu sa victoire. Êtes-vous prêt ce matin à revivre dans l'onction de Dieu? Êtes-vous prêt à dire, moi, je revis dans l'autorité que Dieu m'a donnée? Êtes-vous prêt à dire, j'ai des dons, j'ai des talents et je veux le mettre au service de Dieu? Alléluia! Soyez là, frères et sœurs. Dieu a besoin de vous! L'Église, c'est militant. L'Église avance avec ceux qui ont des dons et des talents. Mais vis pas dans la peur, dans la... Tu feras sûrement des erreurs. Mais qui en fait pas d'erreurs? Qui ne forme pas? Dieu nous forme tous. Soyez fiers d'appartenir à votre Jésus-Christ. Alléluia. Je termine. Dis avec moi. Il n'y a plus de condamnation. Dis-le. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction sur ma vie. Dites-le, j'ai plus de malédiction sur ma vie. Tout a été pris à la croix. Jésus-Christ, par le sang qui a coulé, l'a pris à ta place, le jugement et la condamnation. Donc, ne vivons pas dans un esprit qui veut nous contrôler. Je ne parle pas là, du contrôle, je ne parle pas de cela, je parle d'autre chose. Vous avez compris ce que je vous ai dit là. Ce matin, je vais faire un appel à la prière, à la délivrance, ceux qui vivent des choses dures dans vos vies, que vous avez senti que vous avez été, comprenez là, que vous avez été volé à quelque part. Vous avez des dons, des talents, mais ça ne marche pas là. Moi, matin, là, mon cœur pour vous là, puis Manon le sait, puis je le dis à qui, je vous aime mes frères. Dieu le sait, je vous aime. J'aime pas tout, j'aime pas tout, mais je vous aime. Alléluia. Bon, le Seigneur me dit dans la prière un matin, il dit, Serge, aime-les. Il dit, oui, Seigneur, je les aime et tu le sais. Alléluia. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à condamner. Ce n'est pas mon travail. Mais mon travail, c'est déclarer qu'est-ce que la Bible déclare. Ça, c'est ma job. Et c'est ça que j'ai fait un matin. D'amener la vérité face à ces esprits-là. Vous êtes appelés à avoir un beau sourire. Vous êtes appelés à venir à l'Église libre. Alléluia. Vous êtes appelés à servir le Seigneur avec vos dons et vos talents. Alléluia. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des autorités qui sont là qui vont vous diriger. C'est ça que je dis, là. Alléluia. Ce n'est pas à d'autres à dire quoi que ce soit. Tu as l'autorité à prendre la place. Allô? Oh, alléluia. J'espère que vous ne lapiderez pas trop, là. Alléluia. J'ai aimé le chant. Merci, Sylvie, promettant de briser les chaînes. Tu comprends pourquoi? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse le rechanter, peut-être avec les musiciens ou ça ne vous dit pas, peut-être mettre un chant, mais ça vous dit, prenez. Venez faire votre ministère, quoi. Ou si tu veux juste jouer seul, Sylvie, sois bien à l'aise. Alléluia. On va se lever ensemble. On va se lever. Vous êtes tellement silencieux. Alléluia. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a encouragé? Alléluia. Mettez-vous devant le Seigneur. Mettez-vous devant le Seigneur. Et lui va faire sa justice. Alléluia. Ce matin, je vais faire un appel simple en réalité. Combien sont prêts à dire avec moi, pasteur, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de me sentir renforcé dans ma foi. Je veux continuer, mais il y a des blocages. Combien ont besoin? On va faire un appel ce matin. Fais juste avancer pendant qu'on va jouer. Je vais prendre une bouteille d'huile ce matin, puis dans le nom de Jésus, on va prendre l'autorité. Combien sont prêts à dire avec moi, ce matin, c'est fini l'intimidation. Satan est sous mes pieds. Moi, je suis enfant de Dieu et je m'en vais en avant. Alléluia. Si c'est votre désir ce matin, pendant que... Si tu peux comme... jouer un pianoté. Venez, venez chercher simplement. Alléluia.